rencontre sur Radio Orient.
Vous êtes bien sur Radio Orient, regard sur les actions menées au niveau local en cette période de confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Rencontre avec le maire de Mazamet dans le Tarn, Olivier Fabre revient tout d'abord sur le dispositif mis en place pour aider les personnes les plus vulnérables. Le maire de Mazamet dans le Tarn, Olivier Fabre.
Notre première préoccupation, effectivement, dès qu'il y a eu l'obligation de confinement, ça a été de se préoccuper des personnes âgées isolées. Il faut savoir qu'on a déjà un listing de ces personnes-là auxquelles on peut venir en aide régulièrement, d'autant qu'elles sont pour beaucoup équipées de la téléassistance, qui est un service municipal et qui leur permet, en cas d'urgence, d'appuyer sur un bouton, tout simple, elles ont un petit bouton autour du cou, elles appuient et ça leur permet de déclencher les secours. Et ça, c'est la mairie qui les équipe. Donc grâce à ça, on a une liste de personnes âgées isolées. Et notre premier travail, ça a été donc de les recenser, de demander aussi éventuellement à la population de nous signaler des personnes qu'on n'aurait pas référencées qui peuvent être en difficulté. Et on a un groupe, j'allais dire une armée de conseillers municipaux, d'élus, qui tous les jours décrochent leur téléphone et appellent ces personnes âgées isolées pour savoir si elles vont bien, pour savoir ce dont elles ont besoin. Et quand elles nous font remonter un besoin d'aller faire des courses, d'aller leur chercher des médicaments, eh bien c'est des choses que nous faisons, que les élus, les conseillers municipaux de Mazamet font bénévolement. Voilà, c'est un exemple de solidarité vis-à-vis des plus âgés et qui sont les plus en difficulté.
Est-ce le dispositif qui est mis en place lors de périodes caniculaires, par exemple ?
Oui, alors c'est un peu similaire et effectivement, on a pu bénéficier de cette expérience sur les épisodes de canicule. Et c'est vrai qu'on s'appuie sur les fichiers qui nous permettent de recenser les personnes en difficulté. Donc on a quand même une certaine pratique. Et puis je rappellerai que nous avons un centre communal d'action sociale qui est au cœur de ce dispositif, dont une grande partie de l'action est tournée justement vers ces personnes âgées seules, isolées, et souvent avec de tout petits revenus, il faut le savoir. Des retraites souvent extrêmement modestes. Et donc, on va dire qu'on a une certaine pratique, un certain savoir-faire de l'aide à destination de ce public.
Oui, parce que c'est une crise sanitaire qui peut mettre en lumière les difficultés sociales des citoyens.
Oui, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, on a bataillé avec la préfecture pour pouvoir maintenir un marché alimentaire le samedi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, alors que la préfecture ne comprenait pas trop, on a expliqué certaines choses. C'est que Mazamet est une ville d'un peu plus de 10 000 habitants. Les hypermarchés sont en périphérie. Ils sont pas en centre-ville. En centre-ville, vous avez deux petites supérettes et quelques commerces de bouche indépendants, mais qui ne répondent pas à l'ensemble des besoins de la population. Est-ce qu'il n'y a pas un marché ? Pourquoi ? Parce que les supérettes pratiquent des prix qui sont plus élevés qu'un hypermarché, et les métiers de bouche que nous avons en centre-ville sont plutôt positionnés sur du haut de gamme, et donc avec un niveau de prix relativement élevé. C'est le prix d'une qualité, de circuits courts, de choses comme ça. Et souvent, pour les personnes du centre-ville à revenus modestes et qui ne sont pas motorisées, le marché est la seule façon dans la semaine de pouvoir s'approvisionner en produits frais et à moindre coût, avec un rapport qualité-prix intéressant et à porter des revenus les plus modestes. Et donc c'est pour ça qu'on a insisté et qu'on a finalement obtenu l'autorisation de pouvoir maintenir un marché dans la halle une fois par semaine. Finalement, on s'est rendu compte aussi que le marché alimentaire avait une vocation économique, mais qu'il a aussi une vocation sociale, finalement. Et je prendrai aussi un autre exemple. On a assisté, aidé, notamment avec des masques, avec des gants et tout le matériel sanitaire, l'épicerie sociale qui existe sur notre ville, qui s'adresse à des personnes défavorisées également, qui distribue des produits, comme les Restaurants du Cœur. Et ça fait partie des premières associations qu'on a été amenés à épauler pour renforcer, soutenir cette action sociale justement dans cette période de crise où effectivement les difficultés, les fractures sociales sont exacerbées. en quelque sorte.
Et pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, cela peut notamment concerner les personnes en situation de handicap. Vous avez créé une page Facebook pour que les commerçants de proximité, les producteurs locaux, se fassent connaître et ainsi puissent livrer des clients potentiels ?
Oui, parce que, et là en fait l'économique rejoint le social, ça répondait à une préoccupation de faire en sorte que les commerçants, les artisans, les petits producteurs ne soient pas à zéro de chiffre d'affaires et puissent continuer à travailler même si leurs magasins sont fermés. Ça c'était une première préoccupation. Et ensuite, c'est amener effectivement le service chez des personnes qui ne seraient pas en mesure de se déplacer ou en mesure de se déplacer facilement, fluidement, on va dire. L'économie, finalement, dans ce domaine-là, rejoint l'action sociale, et c'est bien que les deux puissent se combiner.
Vous constatez un véritable élan de solidarité aujourd'hui de la part de vos administrés, c'est quelque chose qui vous marque ?
Oui, globalement, il y a quand même des réflexes d'entraide qui existent. Alors en tout cas, encore une fois, sur Mazamé, qui est une petite ville, 10 000 habitants, où les gens ont encore le réflexe d'aller taper à la porte du voisin, de demander si tout va bien, de demander si le voisin a besoin de quelque chose. Et donc il y a des cas, effectivement, où il faut s'appuyer sur les bénévoles et les conseillers municipaux, mais on s'aperçoit aussi que, assez souvent, dans les différents quartiers, les différents secteurs de la ville, les voisins sont, il y a quand même de l'entraide entre voisins et que on n'est pas dans l'indifférence totale qu'on peut parfois avoir dans les très grandes villes. Et ça c'est bien, c'est rassurant et ça montre qu'il y a encore du lien social entre les administrés. Ça c'est très positif.
Vous évoquiez les restaurants du cœur, les associations d'aide aux plus démunis restent actives aujourd'hui pendant cette crise.
Oui, elle reste active avec évidemment des difficultés. Faut savoir aujourd'hui que le bénévolat, dans beaucoup d'associations, il est le fait de retraités. Quand on prend le tissu associatif de la ville aujourd'hui, ce sont les retraités qui sont les plus investis, les plus présents, et qui d'ailleurs souvent ont des responsabilités à la tête des associations. C'est normal, ils ont du temps, et ils ont du temps à consacrer que n'ont pas forcément les jeunes actifs. Mais ça crée un problème, parce que ce sont aussi ces retraités qui sont les plus exposés au virus et qui sont les publics les plus à risque. Donc évidemment, ça complique beaucoup le travail de ces associations. Puis une association, c'est par définition la réunion de plusieurs personnes, et le fait de ne pas pouvoir se réunir, ça complique beaucoup le travail de ce tissu associatif, d'autant que nous avons dû fermer par exemple notre maison des associations qui loge l'ensemble des associations de la commune, et donc c'est évidemment des complications logistiques très fortes pour ce secteur associatif.
Je rappelle que vous êtes le maire de Mazamé. Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu aujourd'hui par les différentes autorités face à cette crise, vous qui êtes en première ligne, comme l'ensemble des élus locaux ?
Je n'ai pas l'impression qu'on ait eu un énorme soutien de la part de l'État. On reçoit des consignes, des directives préfectorales, mais on ne peut pas dire qu'à aujourd'hui, on ait reçu un véritable soutien des services de l'État. Je vais même aller au-delà. Ces services de l'État qui sont si prompts et si omniprésents pour nous imposer quotidiennement des normes, des réglementations, des interdictions, des directives, et pour limiter le pouvoir des élus, on ne les voit plus pendant cette période de crise. J'aurais souhaité que les services, tous ces services qui hyper-administrent notre pays, puissent se rendre utiles en temps de crise et se mettre au service des plus démunis. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc on a un État omniprésent pour réguler, encore une fois, normer, interdire et souvent ralentir le pays, mais on n'a pas l'impression qu'il y a la même réactivité lorsqu'il s'agit d'aider le pays à surmonter une crise. Je le dis, ça ne fera pas plaisir, mais je le dis.
Et justement, comment pourrait-il vous aider davantage ?
Ben, je crois que que on aurait pu imaginer qu'il y ait une réorientation des services de l'État, ne serait-ce que pour accueillir les demandes du public par téléphone, par exemple. Les gens ont des milliers de questions par rapport au coronavirus, les gens ont des questions par rapport à l'organisation de la vie quotidienne, les entreprises ont des questions auxquelles elles n'ont pas de réponse, auxquelles les serveurs soi-disant disponibles de différentes administrations doivent répondre, ben, ça répond pas. Vous pouvez laisser tourner votre téléphone 3 heures, vous avez la musique en boucle et personne ne vous répond. Donc si vous voulez, l'État aurait peut-être pu réorganiser ses bataillons de fonctionnaires régulateurs et normateurs pour les réorienter peut-être vers du service et de l'accueil téléphonique, par exemple. Ça aurait pu, ça n'a pas été fait. Voilà, je le constate.
Alors, il y a l'aspect économique qui est important, vous avez commencé à l'évoquer. Comment vous accompagnez aujourd'hui les entreprises dans leur démarche pour faciliter l'accès aux mesures de soutien proposées aujourd'hui par l'État ?
Ben, en fait, la première chose que je fais moi en tant que maire, c'est de décrocher mon téléphone et d'appeler un par un les chefs d'entreprise de ma commune. Donc ça prend du temps, je fais le tour, voilà, j'en appelle plusieurs chaque jour, voir un petit peu comment les choses se passent et pour leur rappeler à chaque fois les différents dispositifs qu'on a recensés qui peuvent exister. Donc avec la Banque publique d'investissement par exemple, avec les systèmes de report de charges ou encore avec des choses plus locales ou régionales, des aides qui ont été mises en place au niveau de la région, au niveau du département, au niveau de la chambre de commerce ou encore par exemple au niveau de la communauté d'agglomération. Donc, et le discours c'est d'abord de prendre des nouvelles et de voir comment la vie s'organise dans chaque entreprise avec les contraintes du moment, les perspectives de sortie de crise et de rappeler à chaque fois qu'il existe des dispositifs qui permettent de soutenir et de, on va dire, d'adoucir le cap de cette crise pour les entreprises. Et j'ajoute qu'au-delà de le faire après personnellement par téléphone, on a envoyé un message électronique à l'ensemble des entreprises qui sont situées sur la commune pour qu'elles aient résumé sur un seul document l'ensemble des aides que nous avons pu recenser à l'échelle de notre territoire.
Vous ressentez une inquiétude aujourd'hui de la part des chefs d'entreprise de votre commune ?
Oui, l'inquiétude elle est palpable en ce sens que beaucoup réussissent à s'organiser pour maintenir un petit peu d'activité, pour mobiliser leur trésorerie, pour passer le cap avec évidemment beaucoup de recours au chômage partiel. L'inquiétude, elle est derrière, elle est plutôt de savoir si, une fois passée la crise, on sera dans une très forte récession, et surtout, dans quelques mois, lorsqu'il faudra rembourser les avances de trésorerie et qu'il faudra payer les charges qui ont été reportées, qu'il n'y ait pas une sorte de bouchon, on va dire, de goulot d'étranglement pour les entreprises, qui se retrouveront d'un coup avec tous ces reports à payer et sans être aujourd'hui sûr et sans avoir la capacité, la garantie de pouvoir les payer d'ici quelques mois. Et beaucoup des chefs d'entreprise ou des commerçants avec qui je peux discuter plaident pour un effacement d'une partie des charges sociales, au moins pour les mois de mars et d'avril.
Et là aussi, vous jouerez également un rôle d'accompagnement lors de l'après-crise.
Commencer à y réfléchir évidemment avec les élus. Il faut savoir que nous, à l'échelle communale, on est en fait compétent sur le commerce. La partie industrie est plus sous l'égide de la communauté d'agglomération. La partie commerce est vraiment du ressort de la ville. Et donc on avait déjà mis en place des aides pour redynamiser le centre-ville qui ont très bien marché sur le précédent mandat. Et donc on a déjà à l'esprit des dispositifs spéciaux pour le budget 2020 qui n'a pas encore été voté, mais qui va être un budget, je pas parodier ce qu'a dit le président de la République, mais ça va être un budget de guerre, en tout cas un budget de guerre économique, et un budget qui sera entièrement orienté, entièrement tourné vers l'aide au commerce. Alors cette fois-ci, pas par des avances et pas par des prêts, mais ça sera directement des subventions d'exploitation sur les commerces, notamment pour aider les commerçants à payer leur loyer au redémarrage de l'activité une fois que les commerces seront autorisés à rouvrir. Ce sera un budget très particulier et qui va nécessiter un gros effort pour ne pas perdre, en fait, on a eu plus de 60 ouvertures de commerces ces 6 dernières années. Je voudrais pas qu'on perde toute la dynamique qu'on a pu retrouver sur le centre-ville et sur le commerce indépendant, qu'on perde tout ça en seulement quelques semaines. Donc il faudra mobiliser des sommes conséquentes pour soutenir le redémarrage économique. Oui.
L'inquiétude est économique, mais elle est bien entendu essentiellement sanitaire. Chacun s'inquiète aujourd'hui pour ses proches. C'est bien entendu l'objectif de ces mesures de confinement, de limiter cette propagation du Covid-19. Une mesure qui est suffisamment respectée aujourd'hui ?
Globalement, oui, elle est bien respectée. Il a fallu sévir un petit peu au début sur certains jeunes qui avaient gardé un petit peu leurs habitudes de sortir un peu tard le soir en groupe dans certains quartiers. Bon, voilà, on a rappelé les choses avec les policiers municipaux, avec la police nationale. Il y a eu quelques verbalisations, mais globalement, les choses sont plutôt bien respectées et on n'a pas du tout les phénomènes de foule qu'on a pu voir dans certaines grandes villes. Il n'y a pas de ça chez nous et je trouve que les gens sont globalement plutôt respectueux et que les choses se passent plutôt bien.
Ce mois-ci va être marqué par un événement important pour les citoyens de confession musulmane. Est-ce que vous souhaitez adresser un message à vos compatriotes de confession musulmane à l'approche du mois du Ramadan ?
Je vais leur adresser un message de sympathie et surtout de soutien parce que ça va se faire dans un contexte extrêmement compliqué avec le confinement, avec des restrictions. Et je sais que ce moment est une fête. C'est un moment où on se retrouve, à nombreux et ça sera sûrement pas possible cette année. Et donc, moi, je vais leur souhaiter évidemment un bon Ramadan, mais avec les contraintes à respecter et en ayant à l'esprit que si on ne peut pas se retrouver maintenant physiquement, on peut se retrouver à travers les écrans, à travers la radio, vous en êtes un très bon exemple, et que ça n'est que partie remise et qu'il y aura d'autres occasions de pouvoir se retrouver un petit peu plus tard, et que même si certains aspects habituels de ce que ils sont habitués à vivre lors du Ramadan ne pourront pas avoir lieu cette année, il y a la spiritualité qui compte, et c'est un aspect très important qui, celui-là, n'a pas besoin de s'affranchir du confinement. L'esprit n'a pas de limite, il peut voyager librement, donc ça c'est très important. Et leur dire donc d'avoir du courage pour pouvoir tenir cette fête dans des conditions très particulières qui font qu'elle sera peut-être un peu moins festive, un peu moins conviviale que ce qu'elle est d'habitude. En tout cas, je pense à eux.
Et vous pouvez imaginer des iftars, des repas de rupture du jeûne, notamment par lien vidéo interposé ?
Écoutez, je vais vous donner l'exemple de ce que font les catholiques pour Pâques. Ils ont commencé d'ailleurs il y a quelques semaines avec le dimanche des Rameaux. Et en fait, ils se sont organisés pour faire des messes par visioconférence. Donc en fait, les prêtres célèbrent depuis une église à huis clos. C'est retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Et les fidèles peuvent assister donc via les réseaux sociaux à ces célébrations. Et c'est ce qu'ils feront pour le dimanche de Pâques. Donc on peut tout à fait imaginer que les citoyens de confession musulmane organisent par ces images et avec ces caméras, avec ces images, des rencontres et des retrouvailles virtuelles. C'est une façon de pallier effectivement à la difficulté et à la contrainte qu'impose le confinement. C'était plutôt bien pensé et je pense que c'est un modèle dont effectivement on peut s'inspirer.
C'était le maire de Mazamé dans le Tarn, Olivier Fabre. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
Rencontre sur Radio Orient.